7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, un autre programme électoral, disons, dans le cadre de la campagne fédérale, on va nous annoncer ce qu'on appelle l'incitatif à l'achat pour une première propriété.
Ça va être annoncé dans le budget, mais on n'a pas de détails. Puis là, TVA Nouvelles sort. Ah, on sait un peu de détails. Donc, oui, 1,25 milliard sur 3 ans. Mais qui y aura droit? Et c'est ça la question, parce que le comptable en moi sommeille.
Bien
alors,
sûr.
Regarde, première des choses, on dit, ah, pour les gens qui n'auront pas 20 % de mise de fonds sur leur maison et qui auront moins de 120 000 de revenus familiales par année. Bon, là, Paul, il y a une affaire qui est drôle avec le fédéral, c'est quand il parle de revenus familiales, par exemple pour les allocations canadiennes pour enfants, il parle pas du revenu brut, mais du revenu net. Là, je parle pas du revenu après impôt, mais ce qu'on appelle le revenu net fiscal. Ça, c'est la ligne 150 sur votre déclaration. C'est après, par exemple, 236, excuse-moi. C'est après, par exemple, la déduction REER. C'est après le facteur d'équivalence de ton employeur au niveau du régime de retraite. Ce que je suis en train de te dire en français, c'est que s'il applique la même règle pour la maison, ça veut dire que les gens qui vont maximiser leur cotisation REER vont peut-être avoir accès à ça, tu comprends? Donc, prenons un exemple d'une famille qui dépasse le 120 000 et que le gouvernement décide d'utiliser la même logique que pour les allocations canadiennes pour enfants, mais qui ont 50 000 d'arrérage de REER inutilisé. Est-ce qu'on va pouvoir moduler cette patente-là pour, tu sais, pouvoir acheter la maison avec l'aide? C'est ça qui est le fun avec le fédéral, c'est que quand on nous mène une chose de même, il faut penser aux incohérences. Et l'affaire qui est intéressante aussi, on a 10 % de prêt sur la valeur de la maison si c'est une maison neuve et 5 % si c'est usagé. Bon, on va encourager les gens, l'étalement urbain, c'est une affaire, mais ce qui est intéressant, c'est comment ça va être remboursé. Ça va être dans 25 ans ou au moment de la revente de la maison. Et là, ça veut dire que, par exemple, mettons que tu as acheté une maison de 300 000, que tu as eu ton 10 %, donc qu'on t'a prêté 30 000 sans intérêt jusqu'à ce que tu revendes ou 25 ans plus tard, il va falloir que tu revendes et que tu rembourses le gouvernement en proportion du gain. C'est-à-dire que si tu revends ta maison 400 000, ben tu vas devoir 40 000 au gouvernement.
Attends un peu là. Tu es en train de me dire que le gouvernement, dans le fond, investit dans le marché immobilier par l'entremise des premiers acheteurs.
C'est un peu ça, mais comme il va renoncer pendant 25 ans, Paul, à des intérêts sur l'argent, on peut se le dire que le gouvernement est perdant. Mais c'est juste que l'acheteur, pense au premier acheteur. T'es un petit coup. Puis là, tu dis, on achète notre première maison. Un, si t'es en région, t'es favorisé parce que c'est 120 000 $ peu importe la région d'où t'es. Donc, un 120 000 $ en région, tu peux t'acheter une maison, mais peut-être qu'à Montréal, tu peux acheter un 3,5. Donc, t'es favorisé d'être loin. Deuxième point, on peut jouer avec la fiscalité comme je t'ai parlé. Et troisième point important, là, tu dis aux couples qui n'ont pas 20 % de mise de fonds. Là, tu vas t'acheter une maison. Tu vas te faire garantir ton prêt par la SCHL, donc tu vas payer une prime au départ à la SCHL parce que tu t'assures pour la banque. Deuxième point, tu peux rapper, donc emprunter sur ton REER jusqu'à 35 000 maintenant par personne au lieu de 25 000. Et en plus, moi, je vais te prêter 10 % de ta mise de fonds. Là, tu es en train de dire aux premiers acheteurs, tu t'hypothèques sur ton REER, tu vas payer une prime d'assurance parce que tu n'as pas la mise de fonds, puis je vais te prêter une partie de la mise de fonds, mais tu vas me la rembourser. Donc, tu es en train de mettre sur le marché des acheteurs qui n'auraient pas de maison normalement, pas de résidence. Et par conséquent, tu influences la capacité des gens de payer et donc l'offre et la demande. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Pendant cette période-là, il y a plus de gens qui sont capables d'acheter une maison, donc les prix ne baissent pas. Donc, es-tu vraiment en train de jouer artificiellement avec l'enveloppe immobilière? Oui, et en plus, c'est 3 ans ou jusqu'à épuisement des fonds. Souvent, l'épuisement des fonds va arriver avant, mais... Ce que je te dis là-dedans, c'est que derrière ça, c'est qu'on fait croire au premier acheteur qu'on l'aide. Mais on ne lui dit pas, hey, en passant, tu vas payer une surprime sur ton prêt hypothécaire parce qu'on va t'assurer. Tu vas emprunter sur tes REER, tu vas nuire à ta retraite. Puis en plus, on va te prêter, mais tu vas nous rembourser. Mais finalement, c'est quoi qui t'appartient dans ta maison? Quelle épargne que tu as faite? Quelle capacité à épargner t'as démontré? Mais c'est beau électoralement, Paul.
C'est sûr. Petit mot sur le bilan boursier depuis le début de l'année, là, le mois de janvier.
Je me suis dit, les vacances arrivent, il faut qu'on regarde nos petits indices.
Ben oui, il faut calculer nos affaires.
Un, il y a 3 points. Il y a eu 3 grandes affaires cette année. Donc, un, la guerre commerciale avec la Chine. On a un président que lorsqu'il tweet, ça influence la bourse. Alors, je suis pas d'accord avec la Chine, j'impose des taxes. Donc, évidemment, ça a joué avec la bourse. Ça fait beaucoup de volatilité et beaucoup de peur au marché financier. Deuxième point boursier, la Fed va publier mercredi sa décision d'augmenter ou non les taux, ou surtout les baisser ou non. On pense que ça va être resté neutre, mais le gouvernement Trump intimide la Fed, lui dit « Hey, moi je veux que tu baisses », donc ça influence les marchés boursiers ça avec. Et finalement, notre rendement de 2019, c'est du rattrapage de la chute entre septembre et Noël de 2018. Donc si on regarde les indices boursiers, par exemple le S&P 500 aux États-Unis, le plus gros indice, mais depuis le début de l'année, on a fait 15%. Mais depuis un an, on a fait 4%. Donc ça, c'est beaucoup plus normal. Donc vous voyez les gens qui se sont fait impressionner par la peak ou la baisse, faut être calme. Même chose avec le Canada. Au Canada, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près le pointage d'il y a un an, mais on a vécu une grosse baisse. Mais depuis le début de l'année, vous me dites « Hey, je fais du rendement au Canada, Pierre-Yves! » Oui, mais c'est juste un rattrapage de l'automne passé. Donc, pour l'instant, on garde sa stratégie, puis on se repose pour l'été qui est plus calme sur les marchés boursiers d'habitude.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
7h22.